Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci. Je n'ai pas noté le nom de la personne qui m'a répondu au téléphone.
Ah ben c'est Paul ou... C'est une jeune femme.
C'est une jeune femme.
Alors c'est Caroline qui vous a répondu.
Caroline,
c'est
une Caroline. Caroline.
Ben oui, c'est Tony.
Voilà. C'est comme une espèce de pas de honte, mais à une échelle tout à fait personnelle. Cet arrêt sur le moment qui nous est contraint,
oui,
a été pour moi plus que bénéfique et il y a des choses excessivement positives qui sont sorties de là, même s'il y a eu des petits passages vers le mois de mars ou avril qui étaient beaucoup plus anxiogènes. Je crois que quelque part on s'est tous un peu habitués aux mauvaises nouvelles et aux scénarios catastrophes. Donc j'essaie de ne pas me laisser aller à l'angoisse, et j'ai trouvé des méthodes, des espèces de routines qui font que j'ai pris le temps d'apprécier. Par exemple, j'ai vécu très longtemps à Paris et je ne vis plus, et je suis revenue me confiner avec mon fils, qui est un jeune adulte, sans savoir comment la relation pourrait se passer, parce qu'on avait des relations un petit peu conflictuelles. Oui. Et puis bon, un jeune de 25 ans...
Ah, il est 25 ans.
Oui, il n'a pas vraiment envie d'être avec sa mère.
Oui, c'est ça, vous lui aviez posé la question avant de dire « Bon, écoute chérie, je vais me confiner chez toi, j'en ai marre de Paris ».
En fait, tout a été une, comment on appelle ça, une coïncidence. C'est-à-dire que ça faisait plus de 10 ans que je me battais avec mon fils contre des problèmes d'addiction qui ne faisaient que s'empirer.
Oui.
Et je n'habite pas dans le même pays que lui.
Addiction à quoi, si c'est pas indiscret?
Ben, je pense que
plusieurs.
Tout. Selon les moyens, tout ce qui pouvait lui passer sous la main.
Oui.
Et j'avais senti au mois de, en 2019, voilà, vers le mois de septembre, j'étais venue le voir. Et là, j'avais senti que vraiment c'était en train de se détériorer. Et en plus, il devenait âgé. Et je me suis dit que. Enfin, j'avais l'impression que j'allais le perdre. C'était vraiment à ce point-là.
Oui.
Et donc, mais c'était terrible, hein, c'était conflictuel, et dans mon état d'esprit, tout ce qu'il fallait, c'était garder une relation pour qu'il puisse répondre au téléphone et texto.
Oui.
Et en fait, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, là en France, il y a eu des grèves, des gilets jaunes, des choses comme ça.
Oui, oui, je me souviens, il y a eu tout un enchaînement, bien sûr.
Voilà, qui a mis la France un peu, du moins encore plus Paris au repos.
Vous n'étiez pas en France à ce moment-là.
Je n'étais pas en France à ce moment-là. Et par contre, comme j'avais parlé au médecin que je connaissais de Paris, il m'avait conseillé de voir avec un centre d'addictologie.
Parlez bien, le son est très sourd. Dans le téléphone, je ne sais pas, mettez bien la bouche.
Et là, vous m'entendez mieux?
Un petit peu mieux.
Oui, je peux raconter. Ouais. Et donc...
là,
et donc,
c'est mieux, en fait... c'est parfait. Hein, merci.
Ah, d'accord.
Merci, Valérie.
Merci. Et donc, en fait... j'en étais où?
Oui, vous aviez parlé, donc c'était au moment où il y avait tout le mouvement des gilets jaunes, beaucoup de manifestations dans Paris. Vous étiez en train de dire, vous n'étiez pas en France et vous avez contacté le médecin qui suivait votre fils ou vous?
Non, c'est un médecin que j'avais dans le passé et je lui ai parlé de mes soucis avec et il m'a conseillé d'aller voir un centre d'addictologie, de le mettre en contact avec un centre d'addictologie. Et donc j'en étais résignée au point où je m'étais dit qu'il fallait que ça vienne de lui. C'était pas à moi de changer les choses. Il fallait que ce changement s'opère de lui. Et donc je lui ai demandé s'il voulait s'en sortir. Il m'a dit oui. Et il a mis des mois à être en liste d'attente. Il est finalement rentré.
Oui.
Et il est rentré, mais une semaine avant le confinement.
Donc à Paris, il était à Marmottan.
Voilà. Non, à Paris. Non, il était. En fait, il y a un centre d'addictologie à l'hôpital européen, à Georges Pompidou.
Ah, d'accord.
Et ils ont une antenne à Corentin-Celton.
Ah bon, très bien. D'accord.
Voilà. Et donc, quand il m'a dit qu'il était rentré, moi, j'y croyais plus. Parce que vous savez, avec l'addiction, vient beaucoup les mensonges.
Oui.
Donc, je ne savais plus quoi croire. Et je me suis dit à ce moment-là, je vais le laisser. Je vais laisser les professionnels gérer son sauvage. Et moi, je viendrai plus tard. Et en fait, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et la veille, le lendemain où il est rentré, les États-Unis ont commencé à parler du Covid en masse et à fermer les frontières, tout ça. Oui. Moi, j'ai pris un billet d'avion, je me suis précipitée. Et donc, j'ai été le voir à l'hôpital. Et en fait, il devait rester 3 semaines, il n'est resté que 10 jours parce qu'ils ont voulu. Ils pensaient qu'il n'était plus un danger pour lui-même, ils ont voulu libérer des lits pour le Covid.
Et oui, forcément.
Et donc, de là, il est venu. Je ne suis jamais repartie pour l'instant. Je travaille en télétravail. Donc c'est pour ça que
parce que j'allais vous demander si vous travailliez encore. Oui, mais en lien avec, aux États-Unis, mais...
Voilà, donc ça veut dire que je me couche entre 3 heures du matin. J'ai des horaires de dingue, mais ça, je me suis fait ma routine à moi, si vous voulez.
C'est marrant, vous êtes fait dans quelque chose d'un changement, d'un bouleversement total. Vous avez réussi à recréer une routine. C'est-à-dire que vous travaillez la nuit, forcément, avec...
Voilà, mais d'un autre côté, bon, cette routine, je l'ai déjà dans la mesure où j'ai toujours... Je travaille pas dans un bureau, hein. Je travaille toujours dans la maison, des fois je suis un peu dans le bureau, mais donc c'est pas, ça change un peu parce que effectivement 9 heures de décalage horaire faut pouvoir assurer.
Mais oui.
Ce que je voulais dire, c'est par rapport à chaque personne est dans des situations différentes. Oui, il y a des gens qui sont dans des maisons magnifiques à la campagne et d'autres qui sont dans des 9 mètres carrés.
Mais je pense aux étudiants, notamment.
Voilà, ou les gens qui sont seuls.
Mais je pense beaucoup, moi, je me dis les jeunes, là, les jeunes étudiants, franchement, dans des chambres de bonne, pas d'argent.
Mais ils ont quand même une vie différente de celle qu'on a connue, nous.
Non, moi je suis désolée, mais on se rend compte, parce que oui, bien sûr c'est la génération, les réseaux sociaux et autres, mais on se rend bien compte que ça a leurs limites, les réseaux sociaux, parce que ils sont, quand vous êtes sur un ordi, sur un écran toute la journée, et que finalement vous n'avez pas de contact humain réel avec d'autres personnes, ben vous avez beau échanger sur Facebook, ça remplacera jamais la présence. Ils craquent de toutes parts, les étudiants, là.
Oui, je suis d'accord, mais je trouve quand même que déjà, dans leur mode de fonctionnement aujourd'hui par rapport aux années 80 ou 90, ils ne font pas la fête comme nous, on faisait la fête.
Les pauvres, ils aimeraient bien faire la fête, mais ils ne peuvent pas.
Ah oui, nous aussi, hein, je veux dire, tout le monde est logé à la même enseigne
Je trouve que c'est rude. Je pense à des jeunes gens qui quittent leur famille, c'est leur première année. Quand vous arrivez, vous arrivez dans une grande ville, vous êtes dans une piole, ils font 10 mètres carrés, vous avez pas le temps de faire des amis, il faut vous motivé, c'est la première séparation avec la famille. Non, je pense à eux, c'est vraiment très rude. Et j'aimerais bien d'ailleurs, on n'a pas de jeunes étudiants qui écoutent, mais franchement, je leur ouvrirais volontiers l'antenne là, pour les écouter. Peut-être que d'ailleurs il y a des parents ou des grands-parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et on serait heureux de les entendre. 09 69 39 10 11. Mais pardonnez-moi cet aparté, parce que votre fils Valérie, comment va-t-il aujourd'hui?
Mais c'est un changement total. Je me félicite tous les jours de me dire que j'ai eu la chance d'être là, que je pense qu'on a autant besoin l'un de l'autre, mais on a su aussi garder nos moments chacun de notre côté, parce que c'est pas bon de vivre les uns sur les autres. Moi, je suis beaucoup plus active, donc au début, on a ensemble fait du sport dans la maison quand c'était vraiment le confinement pur et dur. J'ai vraiment regardé mon alimentation, à bien manger, mais bien manger des bonnes choses, quoi, pour que ça fasse un plaisir. J'ai mis plus d'argent dans la qualité de la nourriture. J'ai vraiment fait des repas variés avec toutes sortes de sauces, sans y réfléchir trop, des choses qui ont du goût et qui ont des protéines et qui sont faites cuites maison, etc.
Mais alors dites-moi, Valérie, c'est-à-dire que en fait vous me dites vous êtes chez votre fils actuellement, donc il a quand même c'est un logement un peu vous êtes pas dans un studio.
On a chacun notre chambre, hein. C'est un appartement de deux chambres que j'ai depuis longtemps, dans lequel il vit. Mais ce que je voulais dire par rapport aux gens, par rapport à tenir, Je suis passée un tout petit peu au début par des moments d'angoisse.
Oui.
Et en fait, ce que j'ai retrouvé, c'est un réel plaisir, c'est de prendre mon temps.
Même prendre le temps de cuisiner, au fond.
Je prends mon temps et j'ai fait des balades en vélo, en courant, à pied. J'ai découvert un Paris que j'ai connu pendant 20 ans, des ruelles que je connaissais pas. Oui. J'ai été pendant toutes ces années. J'ai travaillé comme une dingue dans des corporations. Je prends le temps de rester une heure et demie dans le bain. Je prends le temps, quand le matin je me réveille, je prends le temps de pas sauter du lit. Je pense qu'il faut regarder les côtés positifs parce qu'on n'a pas le contrôle de ce qui se passe en ce moment.
Non.
On peut pas le contrôler. C'est ça le problème. Ça ne vient pas de moi. Je veux dire, il y a des choses que je peux faire.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par rapport, vous dites au fond le fait, votre présence auprès de votre fils a pu aussi contribuer à l'amélioration de son état. Enfin, il avait au fond. Peut-être ça lui fait du bien à lui aussi que vous soyez là, parce que vous étiez aux États-Unis, lui était là. Peut-être qu'il était un peu seul et que il était dans une période où il avait besoin aussi d'être un peu entouré.
Il est fort possible. Après, je me suis beaucoup remise en question parce que quand on a un enfant qui a des problèmes d'addiction, on pense que c'est de notre faute à nous.
Non, c'est pas aussi simple que ça.
J'ai pas élevé mon fils pour qu'il en arrive là.
Évidemment. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est qu'au fond, avec cette histoire de confinement, le fait que vous soyez revenu ici à Paris et que vous soyez amené à nouveau à vivre ensemble, ce que vous ne pouviez plus faire depuis des années, peut-être ça lui fait du bien.
Il était odieux. Il était
odieux.
C'était quelqu'un qui était odieux parce qu'il était dans la paranoïa, parce qu'il mentait, parce qu'il a problème de sa vie, parce que toutes ces choses affreuses qui viennent avec tous les comportements addictifs. Cette pause, moi je vois ça comme une pause parce que je sais qu'on va s'en sortir. Je sais pas quand, mais je suis convaincue qu'on va s'en sortir. Je n'ai pas de doute là-dessus.
C'est en bonne voie.
Et je me dis que, bien que ce soit dur, le plus dur, c'est la motivation. La motivation de se dire, bon, allez, j'ai une heure, je sors, même s'il fait froid, ça va me faire du bien, avoir un peu... Il faut se forcer. C'est ça qui est le plus dur. Il faut se forcer à découper ses journées, que l'on travaille ou pas, pour faire des choses un peu différentes.
Vous avez raison, parce se donner un cadre.
Parce qu'on perd un but, on perd ses repères.
C'est vrai, vous avez raison. Mais voyez, je reçois un message de Feuille d'Érable qui dit non seulement les étudiants sont seuls dans leur petite chambre, mais ils suivent les cours également à distance, sans aucune possibilité pour eux d'échanger en vrai. On pense à eux. C'est ça. Et il y a des situations comme ça où se motiver quand vous êtes dans un environnement qui est pas agréable, sur un écran toute la journée, c'est rude.
C'est
rude.
Dur.
Oui, c'est dur.
On a profité pour faire une formation
faut déjà avoir un certain mental. Il y a des gamins, enfin, il y a des jeunes, ils sortent de la famille, de l'univers un peu familial, d'un cadre, du lycée. Ils arrivent, bim, première année de fac. Ils sont lâchés, ils voient pas les profs. Ils sont devant un écran, ils sont dans une piole. D'ailleurs, c'est une catastrophe. Il y en a plein qui décrochent, évidemment. Des réactions
c'est déjà
à ce
pas
sujet.
Évident.
Non, c'est pas évident déjà la première année. Je vois, pardonnez-moi Valérie, mais il y a beaucoup de réactions autour de comment tenir. Vous nous avez donné, vous, vos trucs, ce qui vous aide à tenir. Il y a beaucoup de réactions aussi sur ce sujet, Paul.
Oui, mais c'est surtout pour les étudiants. C'est vrai que très souvent, il y a une séparation après le lycée, au moment de la fac, où on se sépare un peu de ses amis parce qu'on n'a pas les mêmes orientations. Et comme les étudiants ne vont pas en amphi, ils ne peuvent pas se lier d'amitié avec les nouveaux camarades. Et c'est souvent une période charnière où on se fait son réseau, en fait. Ses amis de plus tard, son réseau, c'est souvent à la fac.
On quitte, c'est souvent la première séparation avec la famille, avec les amis. Et on se retrouve, et là, ils n'ont pas eu le temps de s'en faire des aveux.
C'est ce que beaucoup d'étudiants vivent, exactement. Alors, il y a Anne-Cécile qui a entendu le témoignage de Sébastien, et dans lequel elle s'est retrouvée. Ça m'a fait du bien, elle s'est sentie moins seule. Vous voyez, Anne-Cécile, elle est maman au foyer, et toute son organisation de bénévolat, de relations s'est écroulée. Donc maintenant, elle lit, elle tricote, Anne-Cécile. Il y a Karine aussi, qui marche pour se vider la tête. On a l'impression de se retrouver avec soi-même après une journée de travail. C'est un antidépresseur naturel.
C'est ce que
fait aussi Béa. Béa qui est aux USA, qui est aux États-Unis.
Oui.
Qui là, justement, nous écoute en se baladant et en regardant le soleil se coucher.
Ah, c'est chouette. Vous voyez, Valérie, vous nous écoutez
moi,
en podcast.
Profondément, je me suis mise, ça m'a pris en fait au mois de... Parce que j'ai quand même eu un peu un été où je suis allée voir quelques amis. C'est vrai que cet été, c'était pas trop dramatique. Et puis en septembre, rebelote, on a été vraiment encore secoués sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et là, je me suis dit, bon, faut que je trouve un exutoire au niveau de mon énergie que... Et je suis d'habitude, je fais du yoga, des choses comme ça. J'ai essayé un peu de faire du yoga à la maison toute seule, mais c'est un peu, il y a des bons trucs sur
pas
YouTube,
simple.
Tout ça, mais
pas
c'est
simple.
Pas simple.
Valérie, il va falloir qu'on se quitte.
Ah, d'accord.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire en un mot, peut-être
En un mot, je pense vraiment que de prendre l'air et d'aller dehors où qu'on soit. C'est ce qui a
et ça tombe bien, le printemps n'est pas loin et puis les jours rallongent. Merci beaucoup Valérie pour votre appel. Merci. Paul, d'autres réactions ?
Calimero qui fabrique des cerfs-volants et qui les fait voler. Voilà, ça fait s'évader, c'est chouette.
C'est beau les cerfs-volants.
Et sinon, c'est un peu tard, mais on a Antonin qui vient nous appeler au 09 69 39 10 11. Il a 21 ans, donc on prend rendez-vous lundi et on essaye de se parler lundi.
Ah, c'est chouette. Oui, Antonin, promis. Lundi, on démarre avec vous. C'est bien qu'on ait... Il y a longtemps, je me dis, j'aimerais bien avoir des jeunes, des étudiants. Je sais qu'il y a souvent des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété. On est là aussi à votre écoute. Antonin, on démarre, promis, lundi avec vous. D'ici là, passez un bon week-end.